l'amphi à 3, s'il vous plaît.
Donc ça sera au bout du couloir, une fois que vous serez dans le hall.
Il est 10h50 et vous écoutez France Culture, ce qui veut dire que vous êtes en retard au boulot ou que vous séchez les cours, ou peut-être pire encore. Et ça tombe bien. Grand Amphi s'adresse aux auditeurs libres. Grand Amphi. Science, sexe et fac. Épisode 2.
Alors, Coleman, qu'est-ce qu'il décrit ? Il décrit comme addiction sexuelle, donc en premier critère, une drague compulsive impliquant la recherche constante et insatiable de partenaires multiples. Vous avez ensuite un auto-érotisme compulsif, donc c'est quoi ? C'est une masturbation par exemple frénétique, avec une fréquence de 5 à 10 fois qui conduit à des blessures et des sensations de fatigue, voire à des difficultés socio-professionnelles.
À l'heure où le soleil darde ses brûlants rayons sur la pelouse rase des campus, la libido siendi des étudiants se mue en libido sensiendi, en désir sensuel. Mais ce désir dégénère parfois en pathologie et François Ramseyer affûte à ce sujet de nouveaux outils de compréhension, lui qui enseigne à l'année la sexologie, une discipline encore buissonnière mais qui peu à peu pénètre l'université. Pour ce qui est du contenu de l'enseignement qui est délivré dans le cadre de ce diplôme interuniversitaire, ce DIU de sexologie, François Ramseyer, il y a à la fois l'apprentissage des bases sexologiques, mais aussi une initiation à la pratique. Alors on se fait tout de suite des représentations plus ou moins coquines. Comment ça se déroule précisément cet enseignement ?
Ça se déroule surtout, d'abord il faut apprendre, et puis ensuite la pratique, c'est une pratique qui n'est pas faite avec les patients. C'est bien évident qu'on ne sait pas faire ça encore, en tout cas pour nous, et que cela pourrait un jour intervenir, mais on n'a pas par exemple de stage clinique. C'est assez extraordinaire, on pourrait avoir des stages cliniques soit en psychologie, mais je vous dis, on a un seul professeur de psychologie en France qui s'occupe de ça. Et en médecine, les professeurs de médecine s'occupent de ça parfaitement, sauf qu'il n'y a pas de service où on va enseigner la sexologie comme un service de psychiatrie ou un autre service. Alors évidemment, tout ce qu'on fait ici, c'est par exemple ce matin, on a un cours avec un psychiatre, et ce cours avec le psychiatre, qui est un psychiatre qui travaille au Luxembourg, dans un centre hospitalier, peut peut-être donner à l'idée que c'est un service à mettre en place pour accueillir des étudiants qui vont faire la sexualité. Mais que pour l'instant, on ne peut pas l'exiger. On va peut-être chercher la salle, hein, parce qu'elle est plus loin.
Alors, les rituels intensifient les obsessions, donc ça majore la stimulation et l'excitation. Il y a une répétition de façon immuable et répétitive d'un scénario érotique, quel que soit le partenaire ou les circonstances. Sexualité addictive ne tolère aucune variation dans les modalités de réalisation de l'acte sexuel. C'est comme le toxicomane, il y a toujours le même enchaînement des choses. Vous avez des questions ?
Ça ne veut pas dire non plus que tout homme ou femme qui trompe son conjoint est hypersexuel.
Non, c'est pas nécessairement ça, non, mais je vous dis, en fait, il y a aussi un peu l'illusion, là. Vous êtes dans l'illusion, finalement, que c'est toujours mieux ailleurs aussi, hein, avec une autre partenaire. Puis c'est dans l'interdit, il y a des choses un peu excitantes qui font que la relation persiste dans ce sens-là. Mais chez l'hypersexuel, il n'y a pas vraiment de plaisir pour l'autre, en fait, c'est un besoin pour soi, qui est complètement pathologique.
Mais vous, François Ramseyer, qu'est-ce qui fait que vous êtes décidé à entrer dans cette voie, celle de l'étude et de l'enseignement de la sexologie ? C'est par amour ou c'est confronté, au contraire, à une violence ?
Ça a été confronté à une violence quand je me suis installé, puisque finalement, j'ai rencontré et j'ai eu, dans les gens que je connaissais, qui étaient déjà installés en gynéco-obstétrique, des gens qui étaient abuseurs sexuels. Hein, on ne peut pas imaginer ça et pourtant, voilà. Comment, quand on est médecin, pouvoir faire un abus ou abuser de sa situation devant cette fragilité d'une femme qui peut être déshabillée, qui n'est pas bien et qui vient pour des soins et parce qu'elle se sent mal. Et à partir de ça, c'était une révolte. Et puis, bon, la deuxième révolte, ça a été de rencontrer ces femmes qui ont été abusées, que la police me demandait d'examiner, etc. Avant, ce n'était pas dans le cadre de l'hôpital. Maintenant, c'est toujours dans le cadre de l'hôpital et c'est mieux. Et puis, la troisième chose, ça a été finalement de découvrir l'abus sexuel chez les enfants. dans les années 84, venu du Canada. Et là, c'était une révélation. Et pour moi, ça a été l'obligation. Enfin, j'ai senti qu'il fallait absolument que je fasse un DU, ce que j'ai fait à Paris. Et puis, bon, on se découvre une âme... Une âme, justement, de pédagogue, puisque c'est quelque chose qui change notre vie, de comprendre ça, et à partir de là, on a envie que les autres l'entendent.
Il y a aujourd'hui une parole qui se libère concernant la sexualité, singulièrement les abus sexuels à l'université. On a parlé récemment de viol dans la prestigieuse université américaine Harvard. Il y a eu un rapport sénatorial récemment sur le harcèlement sexuel à l'université en France. Vous êtes attentif à ce phénomène et peut-être à votre ascendant psychologique sur vos étudiantes, vos étudiants ?
Absolument, absolument, c'est très important. C'est... Ici, dans cette université, on fait des congrès qui sont des congrès multiples. Et dans ces congrès, effectivement, on voit des étudiants en psychologie qui découvrent l'abus sexuel, ne le découvrent pas en tant que tel, mais s'aperçoivent que ça existe. Il suffit par exemple de distribuer un papier en disant « est-ce que vous avez vécu un abus sexuel une fois ou l'autre ?» et de prendre ces papiers à la fin d'un congrès et pour s'apercevoir que bon, des fois 8 à 10% des gens nous disent oui. Alors il s'agit d'un abus particulier peut-être, il s'agit des gens qui ont envie de le dire et pas d'autres, donc on ne peut pas faire de statistiques et les statistiques sont complexes, mais en tout cas on est très sensible à ça et en offrant justement des cours de DU ont fait que la sexualité doit être mieux comprise et qu'on doit absolument éviter par la prévention, une prévention attentive qui n'est pas si bien faite en France. Parce que la prévention faite dans les écoles et un peu partout, c'est surtout les peurs des adultes qu'on va essayer de convaincre. C'est-à-dire la contraception, le sida, les abus sexuels, oui, mais ce n'est pas la première intention, quoi. Et d'ailleurs, on forme aussi des gens à l'enseignement de la sexualité. Donc c'est un DU de 2 ans et ces gens sont formés à faire une éducation à la sexualité. Et cette éducation à la sexualité prend en compte justement... le développement psychosexuel de l'enfant, et on pourrait parler des premiers rapports chez les adolescents qui, avec la pornographie par exemple, qui assèlent l'éducation sexuelle sociale, j'allais dire, et que tous les jeunes regardent une fois ou l'autre et découvrent, eh bien, il y a de la violence, il y a des idées fausses, que les femmes attendent que ça, et quand elles disent non, elles pensent oui, il y a des aphorismes comme ça, épouvantables. Donc, on a un travail et on aimerait bien former plus de gens qui vont faire de l'enseignement de la sexualité et moins de sexologues. Parce qu'être sexologue est certainement beaucoup plus difficile que de faire la prévention de la violence sexuelle, etc., etc. C'est plus difficile, mais c'est mieux de préparer l'éducation pour éviter justement toutes ces violences et pour éviter qu'ensuite on essaye de récupérer ces gens, qu'ils soient hommes ou femmes, qui ont subi ces problèmes-là. Et on voit dans les consultations habituelles, très fréquemment, quand les gens acceptent de nous en parler, après avoir pris confiance... et nous avoir donné leur confiance, on voit qu'on a souvent, pendant l'enfance, des violences sexuelles qui sont passées.
La sexo est pour François Ramseyer la réponse aux questions intimes de ses contemporains et aux tristes réalités qu'on se plaît parfois à ignorer. Mais comment Sébastien et les autres étudiants du diplôme interuniversitaire de l'Université de Lorraine envisagent-ils demain leur pratique de sexologue ? Eh bien, vous le saurez en écoutant demain la suite de Grand Amphi, la série estudiantine de Martin Kénéen et Julie Béressy. Mixage, Éric Villenfin. Coordination, Anne-Catherine Lochard. Réécoute, podcast et commentaires sur franceculture.fr. Et dans un instant, Culture Monde de Florian Delorme.